c'est entre autres, et contre autre, un jour un peu particulier pour moi, toujours parce que je me suis converti à la vie comme vous. Il y a exactement 28 ans, alors j'étais moi tout seul dans la forêt pendant un conscoute, et c'est là où j'ai choisi, décidé de me laisser appeler par le Seigneur. Et bon, il m'a fallu beaucoup de temps pour que Dieu m'apprenne à aimer les gens, parce que j'étais converti tout seul dans mon coin à Dieu. Et le Seigneur a mis pas mal de temps pour m'apprendre à aimer l'Église et prêt à l'aimer assez pour continuer à l'Église. L'Église est vraiment une belle invention de Dieu, passionnante, sainte, joyeuse. Mais c'est pas toujours ça. Et nous avons à travailler pour ça. Qu'elle soit belle, sainte, joyeuse et surtout consacrée au Seigneur. Comme je l'ai dit, c'est ce que Karine Rebel nous fait aussi. En traduisant la Bible pour que l'Église soit sainte et fondée sur la parole de Dieu. Voilà. Dans la confession de foi, on a hésité pour savoir à contre qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va prendre le passage sur le Saint-Esprit ou le passage sur l'Église? Puisque finalement, Pentecôte, c'est surtout l'anniversaire de l'Église. Dieu a démarré à fonder l'Église le jour de la Pentecôte, mais il l'a fait évidemment en donnant le Saint-Esprit à son Église. On a décidé de mettre l'Église et de parler du Saint-Esprit la semaine prochaine. Pour toi, qu'est-ce que l'Église? Si tu dois définir l'Église à tes amis, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on dit? Donc, vous voyez que le texte de la confession de foi est assez long, parce que c'est pas facile de résumer ça en quelques mots. Comment est-ce qu'on va parler de l'Église? Alors, avant de lire vraiment la confession de foi, vous avez là d'autres éléments beaucoup plus précis. Prenez peut-être des notes parce qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui. Il me semble important de prendre les trois images principales pour parler de l'Église dans le Nouveau Testament. La première image, c'est le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple qu'il a voulu saint, irréprochable et qui lui appartient. C'est peut-être la définition qui vient de Jésus. Avec cette promesse faite à Abraham, qui serait le père d'une grande nation, la nation du croyant. Après, ça fait un petit peu solennel, hein, un peu plus simple. Mais c'est sans doute l'expression qui revient le plus souvent. Une autre image qui revient souvent, c'est l'image du temple de Dieu. Autrement dit, le lieu privilégié où Dieu se manifeste. On sait que Dieu est partout et se manifeste partout, dans sa création, mais aussi dans ce qu'on appelle la grâce commune, le fait que nous recevons des bénédictions, par exemple dans le système de santé. Dieu se manifeste partout, mais il se manifeste plus particulièrement par sa parole et plus particulièrement dans l'Église. Nous sommes le temple de Dieu, autrement dit, nous avons ce privilège que Dieu se manifeste. Après, c'est vrai que l'image du temple ne donne pas tout non plus, parce que ça fait un peu statique. Une pierre dans le temple, elle ne bouge pas beaucoup, alors que l'Église est censée aller de l'avant. Une autre image, qui est une image aussi très courante dans le Nouveau Testament, c'est l'image du troupeau. Le bon berger nous conduit vers le vert pâturage. Il mène à travers le désert vers les oasis. Vous savez ce que sont les brebis? Elle veut juste être tranquille, peinard, suivre chacun son propre chemin et se chamailler tranquillement en paix. Et puis, le berger les empêche de faire ça. Il les mène là où il y a de l'eau, là où il y a de l'herbe. Il les protège du soleil, des parasites et surtout les unes des autres. Vous savez que c'est comme ça dans un troupeau, le plus grand danger, c'est les autres. Il faut un berger pour vivre ensemble. Dans un troupeau du moins. L'image du troupeau montre bien l'amour du berger, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est vrai qu'on n'aime pas trop être comparé à des moutons. Quelqu'un qui me dit ça, ce que j'aime pas dans la foi chrétienne, c'est que vous devez vous comporter comme des moutons. Et puis, ce n'est pas tout à fait ça quand même, mais bon, voilà. Ouais. C'est le côté français, on n'aime pas être des moutons. Hein. Mais bon, l'image du troupeau montre bien l'amour du berger et le fait qu'on soit un groupe qui est en marche dans une direction. On n'est pas appelé à rester au même endroit. qui m'est appelé à suivre le Seigneur. Nous sommes appelés à être un troupeau qui suit son berger et non pas une espèce d'amoncellement d'individus individualistes, comme c'est plutôt l'habitude de la culture française. On pourrait sans doute utiliser d'autres images, mais c'est les trois plus présents, les trois les plus courants dans le Nouveau Testament. Je sais que dans certains de nos cantiques, on utilise parfois l'image de l'armée, mais ce n'est pas une image du Nouveau Testament. On a l'image du soldat romain, mais c'est l'image de toute l'Église, pour Éphésiens 6. Les images principales, c'est le peuple de Dieu, le temple de Dieu, et le troupeau du Seigneur qui marche derrière son berger. Ce n'est pas quelle votre image préférée pour le début, et surtout comment vous essayez d'expliquer à vos amis ce qu'est l'Église du Seigneur, l'Église locale et puis bien sûr l'Église universelle. On va prendre le document de la confession de foi. Vous verrez que c'est un article assez complet. Même en choisissant et en ne présentant pas tout, je suis bien conscient que ça risque d'être un petit peu dense et un petit peu complet. Donc, je vous encourage à prendre des notes et ayez la liberté de prendre des notes de ce qui vous a touché aujourd'hui. Et puis, vous relirez la confession de foi tranquillement chez vous une autre fois pour le reste. Voilà, je vous invite à lire ce texte qui va aussi décider sur notre vidéo projecteur. Voici ce que la confession de foi du reste du frère, dont nous faisons partie, nous dit sur l'Église. Nous croyons que Dieu a voulu créer pour lui une humanité nouvelle, appelée à lui rendre un culte et comprenant tous ceux qui ont été régénérés et réconciliés avec lui par Christ. À cet effet, il a fondé l'Église le jour de la Pentecôte en accomplissement de la promesse faite à Abraham. Elle est la communauté de tous ceux qui, issus de tous les peuples, ont mis leur foi en Jésus-Christ en apportant leur adhésion à l'enseignement des apôtres. Le Saint-Esprit unit ses croyants à Christ et entre eux pour former comme un seul corps. Nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur et l'unique chef de l'Église. Il la nourrit par sa parole, il la conduit par son esprit, et il lui suscite divers ministères pour qu'elle remplisse ses missions. Il la fera paraître dans sa plénitude et sa perfection finale lors du renouvellement de toutes choses. Il lui donne présentement pour mandat d'annoncer l'Évangile à tous les peuples et de faire parmi eux des disciples. Nous croyons que l'Église locale est appelée à manifester à sa mesure la réalité du corps du Christ. Elle est une communauté de croyants nés de l'Esprit qui, tout en reconnaissant leur faiblesse, veulent vivre ensemble à la gloire de Dieu. Il est du devoir de chaque Église locale et de chaque chrétien de préserver l'unité que l'Esprit produit entre les croyants véritables pour l'honneur de leur Seigneur. Voilà. Un long passage qui mériterait sans doute plus qu'une seule qualification. Alors, la première remarque que j'avais envie de dire, vous voyez bien dans cette confession de foi que l'Église ce sont des gens et ce n'est pas un bâtiment ou des institutions. Je pense pour la plupart d'entre nous ce matin, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose qui vous est naturel. L'Église ce sont des croyants. Il n'empêche que quand on parle de l'Église, il faut être précis. Parce que le mot Église, malheureusement, en français, il signifie beaucoup de choses différentes. Très souvent, les gens pensent à un bâtiment, ou à une église locale, ou à tous les chrétiens vivant aujourd'hui partout, ou pour certains à l'Église catholique, ou pour d'autres, le responsable des croisades. Ou je ne sais pas quand. Donc quand vous parlez de l'Église, on est obligé de préciser un peu malheureusement. Mais on est bien d'accord que dans la Bible, l'Église, c'est les croyants véritables. Ce sont les gens. Quel que soit le bâtiment où ils se retrouvent, ici ou sous un mandat ailleurs. La toute première phrase de ce document nous dit « Nous croyons que Dieu a voulu créer pour lui une humanité nouvelle, appelée à lui rendre un culte, et comprenons tous ceux qui auront été régénérés et réconciliés avec lui par Christ. » Eh bien, le but de Dieu est de créer une humanité pour lui. C'était son but lors de la création du monde. À cause de la chute, il doit créer une humanité nouvelle, on comprend bien. C'est pour ça qu'il faut une humanité nouvelle. Le but de Dieu n'a pas changé. Depuis avant la création du monde, créer une humanité, l'être qui soit en lien avec lui. Mais à cause de la chute, il a fallu recommencer les choses. J'aime bien cette expression d'humanité nouvelle. Dieu veut qu'on soit pleinement humain. Hein? Pas les espèces de titans spirituels, mais pleinement humain. Mais je trouve ça fondamental, parce que c'est ça qu'on a soif. C'est de ça qu'on a soif. Quand on discute avec nos amis, c'est ça. On aimerait être pleinement humain, être épanoui. Avoir le sentiment d'être quelqu'un de bien, d'être précieux, le sentiment d'accomplir des choses qui valent la peine, de laisser une trace après une nouvelle chose comme ça. On veut être pleinement humain, pas juste être un pion quelque part. Et c'est avec Dieu qu'on sera vraiment humain. Jésus me dit en disant, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Il me semble souvent important de le rappeler, nous n'avons pas à choisir, nous savons que le Seigneur va faire de nous un peuple, une humanité nouvelle. On nous dit aussi que ce peuple, cette humanité nouvelle a reçu un appel qui est rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. On le dit parfois ainsi, si on évangélise, c'est surtout pour qu'il y ait davantage de gens qui honorent Dieu comme Dieu mérite. Parce que Dieu mérite notre adoration. Et l'essentiel de la vie de l'Église, c'est rendre un culte à Dieu. Pas un culte aux gens se réunir ici dimanche matin, mais honorer le Seigneur, louer le Seigneur. C'est ce qu'on veut faire le dimanche matin, ce qu'on veut faire dans nos groupes de semaine. C'est finalement ça, en premier lieu, qu'on veut faire. C'est aussi ce qu'on veut faire. Hier matin, on était en conseil d'église. Finalement, c'est aussi pour ça qu'on se réunit en conseil d'église. Pour rendre un culte à Dieu et pour régler un certain nombre de détails pour que d'autres puissent aussi, à leur tour, honorer Dieu ensemble. C'est ça le but, finalement. Et même ce qu'on fait chaque matin quand on se lève pour partir dans toutes sortes d'occupations, chacun de notre côté, c'est encore pour ça. Pour rendre gloire à Dieu par notre vie, par nos paroles. Nous avons un appel. Honorer Dieu, rendre un culte à Dieu. Parfois seul, parfois ensemble, en tant que peuple de Dieu. On a d'ailleurs ici un petit résumé de ce qu'est être chrétien. En deux mots, être régénéré et réconcilié. Bien ces deux mots. Être réconcilié et régénéré. Notre but d'église locale, petit morceau du peuple de Dieu, c'est ensemble grandir dans cette relation d'amour avec Jésus, c'est le côté réconciliation, et grandir ensemble dans la régénération, on parle parfois de sanctification. C'est aussi ainsi que nous allons glorifier Dieu ensemble, en étant une nouvelle humanité régénérée et réconciliée avec Dieu et les uns avec les autres. Dans la suite, je vous mets la suite peut-être. Voilà. À cet effet, Dieu a fondé l'Église le jour de la Pentecôte en accomplissement de la promesse faite à Abraham. Elle est la communauté de tous ceux qui, issus de tous les peuples, ont mis leur foi en Jésus-Christ en apportant leur adhésion à l'enseignement des apôtres. On nous rappelle ici que le Seigneur a fondé l'Église le jour de la Pentecôte. C'est un grand jour d'anniversaire, j'espère que vous avez tous prévu un grand gâteau d'anniversaire. Il faut mettre dessus 1970 bougies à peu près. Il faut quand même un gâteau assez conséquent. Vous voyez ce qu'on nous dit ici? Le but de Dieu, c'est de fonder une église. J'entends parfois des chrétiens qui se trompent, qui pensent que le but de Dieu, c'est la conversion, et que pour que les chrétiens ne soient pas trop mous, il faut une église. Vous voyez ? Mais non, le but de Dieu, c'est l'église. Oui. Et la conversion, c'est juste un moyen pour l'église, si vous aimez ça comme ça. L'église n'est pas juste là pour nous aider chacun à vivre notre foi. L'église, c'est ça le but de Dieu. Vivre notre foi ensemble. Apprendre à être le peuple de Dieu que nous serons pour l'éternité. Deux points qui sont importants dans cette longue phrase. Désolé si je vous frustre en mettant trop court sur tout le reste. On parle, ou on nous rappelle ici que c'est une communauté issue de tous les peuples. Autrement dit, depuis Pentecôte et jusqu'au bout de l'éternité, il y aura des peuples, des langues et des cultures. Et Dieu aime cette diversité, ces langues et ces cultures. Et je crois que chaque culture a reçu des dons précieux de la part de Dieu pour les offrir aux autres. Vous savez qu'on a reçu chacun des dons pour le service des autres. Chaque petite église, chaque petit groupe de maison a reçu des dons spécifiques pour le service des autres, mais c'est vrai aussi pour les peuples et les cultures. Chaque culture a reçu un don pour les mettre au service des autres. Nous avons tendance parfois à vouloir à critiquer les autres cultures parce qu'on ne les comprend pas, et des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, ou à considérer que les autres cultures, ça serait bien qu'ils fassent comme nous. Ce n'est pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est qu'ensemble, nous étions dans ce que Dieu nous a donné pour son service. Je pense par exemple pour la Casamance, il y a une chose que je me dis, ça c'est bien. Ils ont le sens de la fête communautaire. Ça, c'est un fait. Et je pense quand on sera au ciel, que quand le Seigneur voudra faire une grande fête, il va plutôt demander au Dieu-là qu'aux Français. Ils savent faire ça, mais bien. On fera sans doute d'autres choses. On sera appelé à d'autres choses, mais voilà. Nous avons des dons à mettre au service des choses, des autres, et c'est une bonne chose. Le Seigneur, il aime la diversité. Il n'y a pas des individus pareils, il n'y a pas de culture pareille. Des familles pareilles. C'est tout s'appeler à voir ce que le Seigneur a mis en nous et à l'offrir aux autres. Deuxième élément qui me semblait important ici, je vous ai bien aimé comme il le rappelle, l'Église est une communauté qui est à la fois une communauté de foi en Jésus-Christ et d'adhésion à l'enseignement des apôtres. Vous voyez, c'est deux choses, la foi et l'enseignement. Et les deux doivent aller ensemble. Et il y a en quelque sorte une sorte de tension entre cette foi intérieure et l'enseignement qui va venir de quelqu'un d'autre, qui est un apprentissage, une formation, un travail, si vous êtes là comme ça. Vous voyez deux choses. Et les deux doivent aller ensemble. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit tout seul pour marcher avec Jésus. La foi ne suffit pas tout seul. Il nous faut aussi l'enseignement. C'est pourquoi Dieu a donné à son Église des villes, mais aussi des gens capables d'enseigner. Mais on dit aussi qu'il ne suffit pas d'être participant d'une Église et d'écouter des enseignements pour marcher avec Jésus. Il faut aussi une foi personnelle et une foi collective, vivante. Il faut les deux ensemble. Et j'entends dans notre Église certains qui vont mettre surtout l'accent sur la foi personnelle, et d'autres surtout sur l'enseignement. J'espère qu'on est tous d'accord qu'on doit mettre les deux ensemble. Historiquement, les évangéliques se sont beaucoup construits en réaction à l'Église catholique. On aimerait bien que les églises évangéliques se construisent par rapport à la Bible plutôt qu'en réaction contre les autres, vous voyez. Et comme dans l'Église catholique, ils sont partis un petit peu dans l'extrême de dire la foi chrétienne, c'est surtout un enseignement, un catéchisme, on a tendance à partir dans l'autre bout. Ouais. Et en faisant ça, on s'est un petit peu éloigné de la Bible. Mais il nous faut vraiment qu'on se rappelle, c'est la foi personnelle, évidemment, mais c'est aussi l'enseignement ensemble, les deux ensemble. Vous savez ce qu'on dit des groupes de quartier. On dit un groupe de quartier sans enseignement affaiblit l'Église. Oui, oui. Un groupe de quartier sans enseignement solide est un groupe qui affaiblit l'Église dans son ensemble. Enfin, bien sûr, on est bien d'accord, un groupe d'études bibliques sans prière sérieuse, ça produit des chrétiens passifs et ça ne fait pas une bonne église. On est bien d'accord aussi avec ça. Et il faut nous rappeler ça. La foi, nous encourager dans notre foi personnelle, c'est très bien. S'il n'y a pas d'enseignement avec, c'est un affaiblissement et ce n'est pas une construction. La foi et l'enseignement, il faut les mettre ensemble. Et j'aime bien aussi le mot qu'ils utilisent, ils parlent d'adhésion, qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'écouter un enseignement, mais de le vivre. C'est vrai aussi pour la foi. Parfois, on croit des choses, mais on vit autrement. Parfois, on sait des choses, mais on vit autrement. Il s'agit d'adhérer réellement à la foi en Jésus-Christ et à l'enseignement des apôtres. La suite nous dit, le Saint-Esprit unit ses croyants à Christ et entre eux pour former comme un seul corps. Nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur et l'unique chef de l'Église. Tout le monde est d'accord avec ça, ensuite il faut mettre ça en place. On entend bien que la première chose, c'est de cultiver notre soumission au Saint-Esprit. Je crois déjà parler quelques fois, mais Stéphane va encore en parler. Je pense qu'il faudra sans doute d'autres prédications encore, parce que nous devons vraiment cultiver notre écoute et notre soumission au Saint-Esprit. Ensuite, on nous rappelle que l'Église a un chef, un seul, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur et l'unique chef de l'Église. Sur ce point aussi, tout le monde est d'accord. Après, il faut mettre en pratique. Et là, parfois, ça passe un peu. Bon. Quelques autres commentaires par rapport à cela. D'abord, nous rappeler que la vie d'une église, la gestion d'une église, c'est avant tout la recherche de la volonté du Dieu, parce que l'église ne nous appartient pas, ni à moi, parce que je suis pasteur, ni à aucun d'entre vous. La volonté de Dieu se recherche ensemble, parce que le Seigneur parle à son église. Je suis parfois surpris quand je visite les églises évangéliques, et la mienne en particulier, de voir parfois des gens qui se comportent comme s'ils étaient eux-mêmes la tête de l'église. J'entends des gens qui me disent en conseil, Dieu a indiqué clairement ce qu'il fallait faire. Avec parfois une surprise qu'il a indiqué aux choses à tous les autres membres du conseil. Vous pouvez choisir par là. Ouais. Parfois c'est un petit groupe, souvent les plus anciens dans l'église, qui considèrent qu'ils savent un petit peu mieux écouter le Saint-Esprit que les autres et qu'ils n'ont pas besoin d'écouter le reste de l'Église. Notre Église d'envoi, qui avait quand disparu, c'était son gros problème. C'était ceux qui avaient fait les communes dimanche avec le pasteur, ça c'était les vrais chrétiens. Qui décidait du cours du manche? Qui avait Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église et c'est ensemble que nous mettons à l'écoute du Saint-Esprit. Lorsqu'on se réunit en athée, ou comme on l'a fait dans la prédiquée autour des cultes, c'est pour chercher ensemble la volonté de Dieu. Et on sait qu'on doit être ensemble parce que nous sommes tous piégés. On aime faire adopter notre point de vue aux autres. Et on n'est pas là pour ça. On est là pour chercher ensemble la volonté de Dieu pour notre Église aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous présenter l'Église à vos amis. Je crains parfois et je me surprends parfois à présenter l'Église comme une sorte de club. C'est sympa, il y a des bonnes relations, vous voyez, hein. Mais l'Église n'est pas là pour ça. Elle est là pour être le corps de Christ qui cherche ensemble à nous donner chacun individuellement, mais aussi chacun prendre ensemble en groupe à marcher dans la volonté de Dieu. Continue un peu. Nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur et l'unique chef de l'Église. Il la nourrit par sa parole, la conduit par son esprit et lui suscite divers ministères pour qu'elle remplisse ses missions. On va ici mettre un peu plus loin. On nous rappelle que nous sommes tous le corps du Christ. Vous avez souvent cette image dans la Bible, hein. Nous sommes tous un membre du corps. Et on nous rappelle aussi que chaque membre a une fonction différente. Et que certains membres ont cette tâche, ici on utilise le terme de ministère, des gens qui ont été choisis par Dieu, par l'Assemblée, pour des tâches précises. Vous savez que le mot ministère vient simplement d'un mot latin qui veut dire serviteur. Le mot serviteur en grec a donné le mot diacre, le mot serviteur en latin a donné le mot ministre. Le premier ministre, c'est le plus grand des serviteurs, comme ça devrait être. Pourquoi nous avons besoin de ministres? C'est parce que nous savons que nous sommes pécheurs, que nous sommes oublieux, et que s'il n'y a pas des gens qui ont la tâche de nous aider, nous n'allons pas entrer dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Et on nous rappelle que l'Église a une mission confiée par le Seigneur. Nous avons besoin de responsables qui nous aident à remplir cette mission. Et parfois, nous sommes nous-mêmes en poste de responsabilité pour aider d'autres personnes à accomplir leur mission. Je vais peut-être vous lire un passage dans Éphésiens 4, verset 11, qui dit ceci. C'est lui, donc c'est Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, ça veut dire envoyés, d'autres comme prophètes, ça veut dire porte-parole, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Dieu suscite des ministères, comme ici on mentionne quatre, les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs enseignants. Et il en mentionne d'autres dans la Bible. On parle des diacres, on parle des présidents de Romains 12, des anciens, des conducteurs dans Hébreux 13, des gouverneurs au sens du pilote qui tient le gouvernail, dans 1 Corinthiens 12, ou encore des surveillants. Nous avons tous comme tâche de nous encourager et de nous aider à grandir. Et puis il y a aussi des ministres qui ont des responsabilités spéciales et particulières. Avec en particulier comme mission rendre apte à accomplir son service. Vous rendez bien compte que rendre apte à accomplir son service, ça vise aussi l'évangélisation par les évangélistes dans les Romains. Parce que pour rendre notre service de la part de Dieu, il faut d'abord être converti. Mais c'est aussi grandir vers la maturité chrétienne et la construction de l'Église. Bon. Quant à la question des responsables dans l'Église, vous avez vu que dans la famille des Églises du monde, il y a différentes compréhensions des choses. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont très claires. La première, c'est que Dieu a appelé et institué certains responsables. Ensuite, il y a un peu deux sortes de responsables. Il y a ce qu'on appelle plus particulièrement les ministères ou les ministres, qui sont formés spécialement, qui sont souvent pour un temps déterminé dans un lieu, qui vont ensuite servir d'autres églises, et qui sont nommés par des responsables plus hauts, nationaux ou internationaux. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul et c'est les douze qui nomment ces responsables. Ils sont aussi responsables de la formation. Ils sont généralement financés par l'Église, soit l'Église locale, soit par leur Église d'envoi. Parfois, certains, mais il semble que c'est plutôt l'exception, certains ont un travail à côté, comme Paul, qui parfois fait des temps, mais parfois pas. Ouais. Vous voyez par exemple Timothée, où Paul lui dit maintenant tu vas travailler dans cette Église, et après il lui dit maintenant tu vas là, tu vas travailler dans une autre. Et puis on voit dans la Bible d'autres types de ministres ou de serviteurs, qui sont, on les appelle parfois les responsables locaux, qui ont différents termes. Le terme le plus courant, c'est ancien, qui était le terme pour les responsables dans la synagogue. En français, ça a donné, c'est le mot presbytère russe, donc presbytéros, donc ça a donné le mot prêtre, comme on dit. Un autre terme très courant, c'est le terme de surveillant, qui est cette fois le terme des fonctionnaires grecs, des chefs d'administration, si vous voulez bien. Ce mot a donné, en français, le mot évêque. Mais à la base, c'est le terme surveillant, celui qui s'en chargeait de veiller sur les autres, si vous voulez. D'autres mots, c'est les diacres, On parle aussi de veuves qui ont une tâche d'accompagnement social des malades, par exemple. On le voit dans les cultures. Ces responsables-là sont des responsables locaux qui restent longtemps. Ce sont des gens du coin qui restent là. On voit qu'ils sont nommés, et bien sûr par Dieu, comme tous les serviteurs, et qu'ils sont nommés en particulier par le ministère institué et par l'assemblée locale. Ils sont parfois payés, mais c'est plutôt l'exception. Après ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans toutes les églises du monde, on reconnaît bien ces deux types de serviteurs que Dieu a donnés dans l'Église pour aider l'Église à faire sa mission. Ensuite, dans les différents mouvements d'Église, on comprend les choses un petit peu différentes entre la part des responsables nationaux, des pasteurs locaux, des responsables locaux ou encore du reste de la communauté. Ça, c'est encore un autre débat. Mais il y a une base qui est commune, qui est la base que le Nouveau Testament nous donne. Le Nouveau Testament ne donne pas ensuite un règlement intérieur détaillé pour nous. Mais nous rappelle que nous avons besoin de responsables pour être capables d'accomplir notre mission. Il y a un seul Seigneur de l'Église, le Christ, mais la société des responsables. Et puis, le but, c'est que nous rendons tous saints et aptes de service. On va aller rapidement sur la suite. Qui nous rappelle ceci. Christ fera paraître l'Église dans sa plénitude de sa perfection finale lors du renouvellement de toutes choses. On est en train de nous dire une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, Dieu rendra l'Église parfaite. La mauvaise, c'est que ça nous précise qu'on ne va pas attendre ça sur terre. L'Église n'est pas encore parfaite ici. Pour l'instant, elle est en route. Nous ne sommes pas encore, certains nous disent, dans le monde du bisounours. Pas tout à fait ça, et le ciel, ça ne sera pas le monde du bisounours non plus, mais. Par contre, nous sommes appelés à avoir dans la tête toujours cette vision de l'Église parfaite. C'est vers là qu'on va. C'est ça qu'on veut. On n'est pas en train de faire un club où on est à l'aise ici. On est une Église en marche vers la perfection, ou du moins, on souhaite l'être. Les choix que nous avons à faire en Église, c'est pour cela. Pour devenir une Église parfaite. Il a voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. C'est ce que nous dit Éphésiens 5, 27. Voilà. Et je vous propose de prendre le livre, voilà, pour revenir un petit peu, encore un petit peu. Voilà. Ça me paraît une excellente conclusion pour résumer ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous croyons que l'Église locale est appelée à manifester à sa mesure la réalité du corps du Christ. Elle est une communauté de croyants nés de l'Esprit qui, tout en reconnaissant leur faiblesse, veut vivre ensemble à la gloire de Dieu. Il est du devoir de chaque Église locale et de chaque chrétien de préserver l'unité que l'Esprit produit entre les croyants véritables pour l'honneur de leur Seigneur. Notre but, c'est vivre à la gloire de Dieu, vivre chacun à la gloire de Dieu et vivre ensemble à la gloire de Dieu. Et j'aime bien cette précision, tout en reconnaissant leur faiblesse. On a parfois cette idée un petit peu bizarre que nous devons présenter l'Église à nos amis comme étant déjà presque parfaite quelque part, au risque qu'ils soient un petit peu déçus quand ils viennent voir de vrai. Il nous semble important de se rappeler que nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est aussi reconnaître que nous avons besoin infiniment de la grâce et du pardon de Dieu. C'est comme ça qu'on avance. On n'avance pas bien en étant aveugle. On ne voit pas la route. Il nous faut voir la route. On voit aussi nos péchés. On voit que le Seigneur est parfait. Un jour, il rendra son Église parfaite. Nous, on peut être réaliste. On en est là aujourd'hui. Mais on sait aussi où le Seigneur nous mène. Je vais vous inviter encore à prier. Seigneur Jésus, on sait que tu sais faire toutes choses parfaites. Et tu vois aussi nos balbutiements pour faire de notre mieux, pour accomplir ta volonté. Et je te prie de continuer à nous travailler par ton Saint-Esprit. Aide-nous à écouter toujours mieux ta voix pour marcher avec toi. Nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Nous savons que c'est à toi que nous appartenons. C'est avec toi et pour ta gloire que nous devons aller de l'avant.